Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Fin 2018 au plus tôt, probablement pas avant 2019, la PMA pour toutes devra attendre encore un peu, et notamment les conclusions des états généraux de la bioéthique prévus l'an prochain. Mais depuis quelques semaines, l'horizon s'éclaircit pour les partisans d'une extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. En juin dernier, le comité consultatif national d'éthique rendait un avis favorable, malgré quelques réserves. Avis conforté la semaine dernière par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, malgré l'expression de quelques réserves au sein du gouvernement, mais une mesure de justice sociale selon Marlène Schiappa. De leur côté, les opposants à la PMA pour toutes font valoir que cette mesure aura pour effet d'institutionnaliser l'absence du père, dans la mesure où le don de sperme reste anonyme. Ils mettent par ailleurs en avant un possible effet domino. Si toutes les femmes, quel que soit leur mode de vie, ont la possibilité d'avoir un enfant, alors il faudra étendre ce droit à tous les hommes, ce qui ouvrirait la voie à une légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Alors, PMA pour toutes, GPA pour tous, c'est la question que nous posons ce soir à deux invités. Dominique Quignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancienne directrice du journal La Croix, vous présidez désormais les Semaines Sociales de France et vous êtes membre du Comité Consultatif National d'Éthique qui a donc rendu un avis il y a quelques semaines de cela. Vous faisiez partie des conseillers de ce comité qui était pour un statu quo en matière de PMA, la majorité des membres de ce comité ayant plutôt fait valoir qu'ils étaient d'accord, avec bien sûr quelques réserves, mais pour l'extension de cette procréation médicalement assistée. Pour discuter avec vous, Laurence Brunet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, spécialiste du droit de la famille, chercheuse à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Vous avez contribué et écrit plusieurs rapports consacrés à la filiation sur différents thèmes. Vous êtes favorable à la GPA. J'imagine que quand on est favorable à la gestation pour autrui, est-ce qu'on est forcément favorable à la PMA pour toutes ?
Oui, ça je crois quand même, c'est lié. Mais c'est un peu réducteur et un peu facile de dire que je suis pour la GPA. Je pense qu'on peut difficilement être pour la GPA sans mettre des conditions. Parce que je pense que les pratiques aujourd'hui et de par le monde nous incitent quand même à la prudence. Mais voilà, prudence ne veut pas dire interdiction.
Voilà, prudence ne veut pas dire interdiction et ce sera un des objets justement de la discussion de ce soir. Non, je vous demandais s'il y avait forcément un lien en tout cas entre le fait de ne pas être contre, disons, la GPA ou d'être pour sous certaines conditions et la PMA pour toutes, parce que l'inverse en revanche n'est pas forcément vrai. On peut tout à fait être pour la PMA pour toutes et contre la GPA, c'est ce qu'on entend d'ailleurs beaucoup dans les discussions politiques aujourd'hui. Alors démarrons si vous le voulez bien sur cette question de la PMA pour toutes. Est-ce que vous y voyez, Dominique Quignot et Laurence Brunet, une suite logique de la loi du 17 mai 2013, à savoir la loi ouvrant le droit au mariage et à l'adoption pour tous, Dominique Quignot?
Oui, c'est incontestablement la possibilité offerte à l'adoption pour des couples de même sexe, immanquablement aller poser la question de la procréation. Comment avoir des enfants qui ne soient pas seulement des enfants de l'une personne, mais des deux personnes. C'est au moins le souhait exprimé. Après, la réalité est assez différente. Donc, c'est assez logique, en tout cas de la part des gens favorables et au mariage pour tous et à la PMA, de juger que c'est le pas nécessaire après l'obtention de ce premier droit.
Est-ce que du coup, il aurait été plus logique et peut-être aussi plus cohérent? Alors on peut être pour ou on peut être contre, mais d'inscrire la PMA pour toutes dans cette même loi, plutôt que de la dissocier. C'est ce qui était prévu d'ailleurs à un moment donné.
Oui, je pense que ça aurait davantage encore accentué les divisions qui ont été très fortes et les réticences. Donc, parce que l'adoption, on peut considérer que c'est un enfant déjà né à qui on permet d'avoir deux parents, de femmes éventuellement, mais tandis que là, dans la PMA, c'est mettre au monde un enfant pour délibérément sans père. Donc, je pense que la question est quand même assez fondamentalement différente, et c'est sans doute pour ça que le gouvernement précédent avait reculé dans sa première formulation.
Laurence Brunier.
Moi, je suis d'accord sur ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que la loi de 2013, elle portait en germe cette question de l'ouverture de la PMA, et elle le portait d'autant plus que c'était vraiment ça le cœur du débat en 2013.
C'était pas très politiquement correct de le dire
voilà,
à l'époque. C'est-à-dire que c'était aussi donner du grand amour, si j'ose dire, à ceux qui étaient opposés justement
voilà,
à la loi pour le mariage pour tous.
Mais en fait, quand on regarde de près les débats parlementaires, je suis juriste, donc je les ai regardés d'un peu près, on voit bien que toute la question de la naissance de l'enfant par procréation médicale assistée est posée et que le législateur va venir couvrir le fait que des femmes vont aller à l'étranger faire un enfant par procréation médicale assistée et ensuite demander l'adoption, qui n'est pas effectivement fait pour ça. Donc il y a vraiment eu de la part du législateur l'idée que il était impuissant à ouvrir la procréation médicale assistée en France, mais qu'il encourageait quand même les femmes à le faire et ensuite, parce qu'elles étaient mariées, de permettre l'adoption en fin de conjoint. Et la Cour de cassation, parce que la saga judiciaire a quand même mis un point final à ce que le législateur n'avait pas achevé. C'est-à-dire c'est la Cour de cassation qui est venue dire que cette façon de faire des enfants allait ensuite être validée par le droit.
Donc, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu défendre l'argument contraire en se disant finalement, donc en ouvrant l'adoption pour tous, parce que c'est vrai, il faut le rappeler, hein, cette loi, c'est pas seulement le mariage pour tous, on a quand même régulièrement tendance à l'oublier, en ouvrant l'adoption à tous, est-ce que ça ne rendait pas moins urgente l'extension de la PMA pour toutes? C'est-à-dire que finalement, quand on a la possibilité d'adopter des enfants, on a peut-être moins d'urgence à vouloir, procréer de manière différente.
Mais non, c'est le contraire. Moi, je penserais le contraire. Parce que quand on regarde ce qui se passe en matière d'adoption internationale, on sait très bien que la plupart des pays n'acceptent pas de donner des enfants à des personnes seules et encore moins si elles se déclarent homosexuelles. Donc on savait très bien que l'adoption ne serait pas une adoption d'un enfant extérieur au couple. On savait très bien, et les débats parlementaires le montrent mais de manière explicite, que ça serait un enfant qui serait... On ne disait pas comment l'enfant serait né, on disait qu'il pourrait être adopté par la conjointe de sa mère, mais on savait très bien, il était en sous-texte, il était dit que ça serait... Il était vraiment pensé et affirmé que ça serait par procréation médicale assistée à l'étranger.
Dominique Quignot.
Moi, je pense qu'il y avait aussi la question dans l'adoption d'enfants nés de mères qui sont aujourd'hui en couple, mais qui étaient nés dans d'autres circonstances et peut-être de manière tout à fait hétérosexuelle. Et c'était une manière de reconnaître l'homoparentalité comme quelque chose de possible. Moi, je pense que ça n'est pas la même chose de dire que l'adoption, c'est un enfant qui vient effectivement d'ailleurs, et je suis d'accord avec vous pour dire que l'adoption internationale classique a peu de chances de fonctionner pour un couple de femmes ou pour un couple d'hommes.
Voilà, c'est déjà compliqué pour un couple hétérosexuel.
C'est clair. Mais dire que, et c'est là toute la question qui peut nous opposer, mais penser que parce qu'il y a utilisation de méthodes comme la PMA avec donneur, ce serait davantage un enfant du couple ou de la femme seule. Non, ce n'est un enfant qui naît grâce aux techniques de la science. Et donc, ça pose toute la question de savoir si ces techniques doivent répondre uniquement à des questions de santé, des infertilités pathologiques, ou si est-ce qu'il faut aller pour combler des désirs d'enfant absolument respectables. Hein, ce n'est pas le problème, mais... Voilà, ce n'est pas la même chose, me semble-t-il.
Est-ce qu'on est dans une forme, alors, de, si ce n'est de détournement, mais en tout cas d'évolution forte de ce qui était censé représenter la PMA, c'est-à-dire répondre à une impossibilité physiologique de couple, Laurence Brunet, à avoir des enfants, et là, on étendrait cette PMA à une demande sociétale?
Alors, oui et non. C'est vrai qu'en 1994, quand la procréation médicale assistée est inscrite dans le droit, elle a vraiment une finalité thérapeutique. Et lorsque la loi a été révisée en 2011, pour la seconde fois, il a même été inscrit clairement qu'il fallait que ça soit pour une infertilité d'origine pathologique. Mais premièrement, si on regarde les pratiques de la procréation médicale assistée en France, on voit bien qu'on flirte vraiment entre le sociétal et le médical. Il y a plein de demandes qui sont liées, par exemple, à l'âge des femmes qui viennent en PR demander une procréation médicale assistée, pas parce qu'elles ont une infertilité d'origine pathologique, mais pas simplement parce que le temps a passé et que, voilà, elles sont plus en âge d'avoir des enfants. Et très souvent, les centres de procréation de l'incapacité vont répondre à cette demande qui est vraiment entre les deux, qui est sur la ligne de crête entre le sociétal et le médical. Donc, il est évident qu'au départ, dans les textes, c'est clairement une origine, c'est clairement avisé strictement thérapeutique pour une infertilité d'origine pathologique. Mais dans la manière dont la procréation médicale assistée est vécue dans les pratiques, c'est beaucoup plus complexe. Et la plupart des médecins, et je me réfère à plusieurs rapports de l'Académie nationale de médecine, disent qu'aujourd'hui, on a largement basculé pour une part, en particulier tout ce qui concerne le don d'ovocytes, dans une procréation médicale assistée qui répond à des demandes sociétales.
Pourquoi est-ce que ça vous pose problème, vous, cette évolution, Dominique Quignot, c'est-à-dire d'une problématique strictement médicale à une problématique de plus en plus sociétale et qu'il serait encore davantage avec la PMA pour toutes?
Alors, c'est une question qui est posée à la médecine, d'une certaine manière. Quel est son rôle et, je veux dire, est-ce qu'elle doit répondre à toutes les souffrances au sens réel du terme, parce que le fait de ne pas avoir d'enfant peut être une vraie souffrance. Donc, c'est une question qui mérite d'être abordée. Ou est-ce qu'elle est liée à cette nécessité de limiter son action à des souffrances liées à des pathologies? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la PMA ici, il s'agit d'une technique qui fait appel à un donneur. Quand il s'agit de femmes seules ou de femmes homosexuelles. C'est-à-dire, ça n'est pas le sperme du mari et aussi de la femme âgée qui a un peu plus de mal. C'est vraiment un donneur qui donc reste anonyme dans le droit français aujourd'hui.
Voilà, alors
et
ça,
qui
c'est,
n'est pas
c'est,
payé pour son don.
Ça, c'est un point justement et qui fait vraiment partie du débat par rapport à cette extension de la PMA pour toutes, parce que là, ça change quelque chose par rapport à la place du père. Si j'ai bien compris les arguments que vous avez développés dans le cadre du Comité national d'éthique, Dominique Quignot, l'idée c'est de dire qu'il y a une forme, on institutionnalise l'absence du père, puisque à partir du moment où le donneur de sperme reste anonyme, l'enfant ne saura jamais qui est son père, donc ça reviendrait à l'effacer, c'est ça?
Ben c'est cela. Alors, la question est celle du rôle du père et de la différence sexuelle pour élever un enfant. Alors, certains disent, mais les enfants s'adaptent à tout. Mais jusqu'ici, l'absence de père a toujours été vécue dans la société comme un handicap, qu'il soit tout à fait lié aux aléas de la vie, à l'abandon par un père ou par la mort du père. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent sans père, donc il ne s'agit pas de les stigmatiser. Il n'empêche que là, on ne cherche pas à pallier une situation, à compenser éventuellement. On crée délibérément une famille où il n'y a pas de père. Bon, pour beaucoup de personnes, la présence d'un père et d'une mère est importante pour l'éducation d'un enfant.
Alors, oui. Laurence Brunet, est-ce que cette création délibérée d'une famille dans laquelle il n'y a pas de père, est-ce que c'est quelque chose qui, de votre point de vue, pose problème? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, de revenir sur la question de l'anonymat du don de sperme, ce qui permettrait à l'enfant, si on part du présupposé que le droit d'avoir un père, c'est un droit de l'enfant, même si je ne suis pas sûr que ça soit un droit juridique aujourd'hui, en tout cas, mais que ça lui permettrait aussi de savoir qui était son père.
Alors, je pense que déjà, quand on dit père, je trouve que le terme est ambigu. Je pense que on est en train de parler de géniteur, et il ne faut pas quand même mélanger. On connaît depuis maintenant plus de 40 ans la procréation médicale avec donneur, donc où le donneur est celui qui a contribué à la naissance d'un enfant, mais ça n'est pas un père. Donc déjà, il faudrait remettre les choses à sa place.
Oui, mais comme c'est réservé aux couples hétérosexuels, père existe quand même. Enfin, voilà. La figure du père existe.
La figure du père, mais vous savez très bien qu'il y a des tas d'enfants aujourd'hui qui se plaignent de ne pas connaître justement leur géniteur. Il y a des associations qui se sont créées pour pouvoir avoir accès à ce donneur. Alors, la question justement du donneur, du géniteur, il ne sera pas du tout effacé justement dans ces familles homoparentales parce que, à la différence des familles hétérosexuelles, elles ne pourront pas dire, elles ne pourront pas mentir ou en tout cas dissimuler le fait qu'elles ont eu recours à l'autre sexe pour avoir besoin de, pour créer cet enfant. Donc déjà la question du secret de la conception, qui est quelque chose qui est quand même assez toxique et aujourd'hui dont plusieurs enfants se plaignent, n'existera pas. Donc je pense que déjà ça peut être quelque chose qui, enfin ça peut être des familles qui vont nous inciter à aller vers plus de clarté.
L'enfant ne connaîtra pas, ne pourra pas connaître légalement son géniteur. Il ne pourra pas ignorer qu'il est le fruit,
d'une procréation qui, comme vous l'avez dit, a été faite par la science.
Qu'est-ce qui sera écrit sur l'état civil?
Voilà, alors qu'est-ce qui sera écrit sur l'état civil? Ben, je crois qu'il n'y a pas besoin que des choses soient écrites. Il y aura deux mères et l'enfant saura pertinemment.
Non, mais on dira né de.
Non, aujourd'hui, dans les actes de l'état civil, pour les enfants nés d'un couple hétérosexuel comme d'un couple homosexuel, il est écrit fils ou fille de. Il est écrit né à. Mais fils ou fille d'eux. Donc il n'y a pas de mensonge dans le droit. Il y a bien l'idée que la filiation, ça n'est pas du biologique, c'est du juridique, l'institutionnel. Ça n'a jamais été, de tout temps, depuis 1804, les pères juridiques n'ont jamais vraiment été toujours les pères biologiques. D'ailleurs, le droit et la société n'en avaient que faire de cette construction. Donc, pour revenir à cette question de l'absence du père, moi je crois que c'est pas pareil effectivement de se retrouver dans une situation où les enfants n'ont pas de père, parce que finalement c'est une construction par défaut, que ça n'a pas été voulu. Des femmes qui ont fait, voilà, des femmes qui se sont retrouvées sans conjoint ou qui ont été obligées de le faire toutes seules, que des cas où des couples de femmes ou des femmes seules décident, en ayant réfléchi, pour en avoir rencontré pas mal, je pense que c'est vraiment des projets qui sont construits d'une autre manière. Donc le manque, il n'y aura pas de manque, au contraire, c'est construit d'une autre manière. Et je crois qu'aujourd'hui, l'évolution de la famille, de la cellule familiale, nous montre que la place du père peut être tenue par quelqu'un d'autre qu'un homme.
Dominique Quignot.
Je suis évidemment pas d'accord avec ça, parce que je veux dire, comment est-ce que vous pouvez en décider pour de ce constat que l'enfant n'en souffrira pas? Justement, ce qui est dit dans l'avis du CCNE et de la part de tout le monde, et pas seulement du groupe de gens qui ont plutôt voté pour la prudence, c'est que les études pour l'instant ne sont pas suffisamment importantes, elles ne durent pas suffisamment longtemps pour être valables. Les études qui vont dans les deux sens d'ailleurs, celles qui tentent à dire que les enfants élevés par des couples homosexuels vont parfaitement bien, ou qu'on entend aussi quelquefois, et ils courent à la catastrophe. Donc je veux dire, une des demandes du CCNE, c'était que ces études soient menées de manière plus approfondie. Parce que pour moi, puisqu'on parle beaucoup de légalité, il me semble que là, on a des enfants à qui on n'offre pas le même statut qu'à des enfants qui ont un père et une mère. Mais on le fait volontairement, vous le dites bien, c'est des femmes qui ont cette volonté en elles.
Il me semble avoir lu dans l'avis du CCNE, Dominique Quignot et Laurence Brunet, qu'il y avait un distinguo qui était fait entre les couples de femmes homosexuelles et les femmes célibataires, avec l'idée que autant peut-être qu'effectivement être élevé seulement par une personne, que ce soit le père ou que ce soit la mère, ça pouvait être compliqué pour l'enfant, mais qu'à partir du moment où il y avait couple, là c'était déjà beaucoup plus sécurisant, disons, pour l'enfant. Est-ce que là, vous partagez le constat, Laurence Brunet, que c'est compliqué aujourd'hui, oui, en tout cas, d'avoir des études qui sont suffisamment fiables, alors, avec suffisamment de recul pour dire
ça? D'abord, il me semble que dans l'étude du CCNE, toutes les études n'ont pas été listées. D'ailleurs, ça fait partie des critiques qui ont été faites à cet avis. Il y a par exemple des études anglaises que le centre de recherche Madame Colombock fait depuis maintenant presque 25 ans, donc qui suit des enfants nés dans des couples hétéros, pardon, de gamètes, dans des couples homosexuels et des couples qui ont encore la GPA depuis maintenant longtemps. Donc on a quand même, enfin, je sais pas, je pense qu'on peut se fier à ce centre à Cambridge qui est vraiment une référence. Donc c'est vrai qu'il y en a pas, il y en a quand même des centaines aujourd'hui entre les États-Unis, les pays du Nord et l'Angleterre qui nous disent qu'il n'y a pas de problème pour les couples, effectivement, de femmes. C'est plus compliqué et c'est vrai que les études sont un peu plus réservées concernant les femmes seules. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et l'étude de Dominique Mel, qu'elle a sortie l'année dernière, le montre bien. Les femmes qui font des enfants en solo, c'est pas forcément un idéal. C'est-à-dire qu'elles le font parce qu'à un moment donné, l'horloge biologique tourne et qu'elles vont plus avoir, elles vont plus pouvoir avoir un enfant. Elles rêvent de pouvoir avoir ensuite un conjoint. Donc c'est toute la différence entre ces femmes d'une certaine manière qui sont abandonnées et celles qui se disent « je vais faire un enfant et ensuite je trouverai éventuellement le père d'adoption ou le père d'affection ou le conjoint.
Bon, donc, cela dit, pareil. Quand bien même il y aurait la PMA pour toutes, toutes celles qui le souhaiteront pourront-elles facilement y avoir accès ? Il faut qu'il y ait suffisamment de donneurs de sperme pour permettre ces PMA, Dominique Quignot. Et ça aussi, c'était un des arguments qui était avancé pour exprimer à minima des réserves par rapport à cette extension de la procréation médicalement assistée, avec l'idée de dire, bah, s'il faut choisir, comment est-ce qu'on va choisir ? Mais ça, en même temps, la réponse, elle paraît simple, Dominique Quignot, c'est-à-dire on va choisir les personnes qui sont vraiment en situation d'infertilité et les autres viendront après, non ? Est-ce que c'est comme ça, en tout cas, qu'il faudrait voir les choses ? Si la PMA pour toutes.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, je suppose. Mais du coup, c'est un leurre. Parce que si le don de, enfin les donneurs de sperme sont peu nombreux et toutes les campagnes, dit-on, qui tendent à étendre le don, ça marche un petit peu et puis après ça retombe. À plus forte raison s'il y a une modification sur l'anonymat. Parce que faire un don de gamètes, c'est quand même pas non plus, c'est pas donner son sang, c'est autre chose.
Donc s'il y a modification sur l'anonymat, ça risque de diminuer. Par contre, si on rémunère les dons de sperme, là, ça peut augmenter.
Alors là, effectivement, c'est où on satisfait de la pénurie, où on essaie de le combler par des questions financières. Et alors là, c'est tout un peu un système français de gratuité qui est remis en cause.
Et c'est pas très grave après tout aussi ?
Si, c'est grave.
Pourquoi ?
Mais tout le système des dons en France, que ce soit le don de rein, le don de sang, est basé sur la gratuité et l'altruisme. Là, si on se met à rémunérer, et je veux dire, là, pour l'instant, le nombre de donneurs est relativement, enfin, le nombre d'enfants que peut à qui peut donner naissance un donneur est relativement limité. C'est 10, je crois. Si on rémunère, qui est-ce qui va venir donner ? Comme d'habitude, c'est comme bon, si on parle de la GPA, ce sont les femmes les plus modestes, ça sera des étudiants en désir de payer leurs études, etc. Donc je veux dire, cette question de la gratuité, elle n'est pas secondaire. Mais je reviendrai sur le fait des priorités. Je veux dire, est-ce qu'on décidera que la priorité, ce sont les couples,
hétérosexuels,
etc. Mais est-ce que du coup, ce sera au nom de l'égalité, est-ce que ce sera juste ? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On fera deux listes.
On peut pas considérer qu'il y ait deux listes.
Et alors, on fait comment justement, Laurence Brunet ? C'est-à-dire, comment on fait pour choisir ?
Ça veut dire que les couples infertiles.
On peut pas choisir, ils seront.
Pathologie, et ben ils verront reculer le moment de pouvoir bénéficier d'un don.
On reste toujours dans l'hypothèse où il y a une pénurie, hein, c'est-à-dire où la demande est plus forte que l'offre. Donc on ne peut pas choisir, mais alors comment est-ce qu'on fait peut-être pour ne pas avoir à ne pas choisir ? En essayant de faire augmenter l'offre, est-ce qu'il faut rémunérer le don de sperme ?
Alors ça, c'est toute la question, mais pour moi, il est inconcevable de les faire passer après, ou, comme le suggère le CCNE, de faire payer les couples homosexuels une partie des frais, plus ou moins la moitié, j'en sais rien comment faire, et pas les couples hétérosexuels, au prétexte que les uns seraient auraient une pathologie, une infertilité d'origine pathologique et d'autres une infertilité d'origine sociale. C'est pas possible.
Le principe de la sécurité sociale, il est quand même basé là-dessus, non ?
Voilà, il est peut-être basé là-dessus, mais à partir du moment où on décide d'offrir cette possibilité, que la science contribue à faire à modeler la société, parce que la médecine n'est pas là que pour la pathologie, la médecine aussi, elle a une fonction de bien-être. On sait très bien qu'aujourd'hui, la médecine, dans la médecine de chirurgie esthétique, participe aussi au bien-être des individus.
Donc la logique que vous défendez, Laurence Brunet, c'est la prise en charge identique, quelles que soient les personnes qui ont recours à la PMA.
Où on sort complètement, où tout le monde contribue un petit peu à payer, mais ça ne me paraît pas possible de réserver, de dire les homos vont payer et les autres ne paieront pas. Ça, il me semble que du point de vue de l'égalité de l'accès aux soins, ça n'est pas possible. Il reste la question de la pénurie qui est effectivement un vrai problème. Mais est-ce que et aujourd'hui, quand on discute avec des médecins des centres de conservation et d'études du sperme, ils disent que tout n'est pas fait pour que les choses se passent bien et pour que les campagnes publicitaires ou les campagnes de sensibilisation, pardon, le mot n'est pas correct, fonctionnent. Et que peut-être si des moyens étaient donnés de manière un peu plus vaste, il y aurait beaucoup plus de donneurs. Enfin, je pense que ça ne se joue pas simplement dans l'idée qu'il y aurait une pénurie comme ça et qu'on ne pourrait rien faire sauf à faire payer ou à rémunérer les donneurs. Je pense que ça peut être un peu plus complexe et un peu plus subtil.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
PMA pour toutes, GPA pour tous, c'est la question que nous posons ce soir dans Du Grain à Moudre en compagnie de Laurence Brunet qui est juriste, spécialiste du droit familial,
droit de la bioéthique.
Droit de la bioéthique aussi.
On peut dire ça, oui.
Et Dominique Quignot, qui préside les Semaines Sociales de France et qui est membre du Comité Consultatif National d'Éthique. Je voudrais qu'on passe à la question de la GPA à présent, même si on l'a très brièvement abordée, toujours en gardant cette idée qu'au nom de l'égalité des droits, il y aurait du coup la nécessité, puisqu'on permet à toutes les femmes, quel que soit leur choix de vie, d'accéder à la maternité, d'offrir aussi cette possibilité-là aux hommes, et donc dans le cas de couple homosexuel homme, d'aller vers la GPA. Est-ce que ce lien vous semble pertinent, Dominique Quignot ?
Je pense que, comme tout à l'heure vous avez évoqué le mariage pour tous et la conséquence pour la PMA, je pense que il y aura effectivement des démarches pour que ce droit soit ouvert pour les hommes, en rappelant que la GPA ne concerne pas que les hommes et les couples homosexuels, mais aussi voilà. Pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Le CCNE a donné un avis négatif parce que, bon, moi, sur la PMA, je mettais en avant la question de l'enfant. Là, il y a la question de l'enfant et la question d'une tierce personne qui est la mère porteuse. Donc, voilà, on est encore dans une dimension différente.
En tout cas, sur la suite logique, en tout cas, qu'il pourrait y avoir entre PMA pour toutes et extension de la GPA, vous le faites. Est-ce que Laurence Brunet, vous êtes d'accord avec là aussi ce lien
moi,
de causalité?
Non, pour moi, il n'y a pas de lien de causalité. Aucun. Bien sûr, ça militera sans doute pour un accès, pour peut-être réfléchir de manière plus sereine à la gestation pour autrui.
Je suis militant en faveur de la GPA. Je ne vais quand même pas me priver de dire, attendez, regardez, la PMA aujourd'hui, elle est accessible à toutes les femmes. Pour quelles raisons les couples d'hommes n'auraient pas accès à la GPA?
Les hommes n'ont jamais remis complètement en question le fait que les femmes portaient les enfants et pas les hommes. Donc je pense que les homosexuels accèdent à la différence des sexes quand même. Sont quand même conscients que les choses ne sont pas les mêmes.
Est-ce que c'est quelque chose qui, du point de vue juridique, en tout cas, pourra se plaider? C'est-à-dire justement mettre en avant
ça. Non, je ne suis pas sûre, parce que je pense que le droit est capable de dire qu'il y a des différences constitutives, naturelles, sur lesquelles, évidemment, le droit n'a pas forcément d'impact. Donc, je ne pense pas que ça soit le moteur de l'égalité qui va faire tout basculer. Moi, je pense profondément que c'est les pratiques des individus et la pression que ce qu'on appelle le tourisme procréatif, j'aime pas ce terme, mais enfin,
le marché,
clair.
Vous voulez dire.
Voilà, le marché, et qui est effectivement aujourd'hui, on est complètement engagé là-dedans, et c'est, je trouve, un peu dérangeant que le Comité Constitutionnel d'Éthique nous dise c'est pas possible, il faut absolument mettre des bordures, et qu'aujourd'hui, la Cour de cassation, le 5 juillet 2017, rende 5 arrêts en disant qu'aujourd'hui, ces familles sont complètement reconnues par le droit, par des montages compliqués, mais elles sont complètement reconnues par le droit. Donc,
juste rappeler l'arrêt de la Cour de cassation, c'est-à-dire qui permet aux enfants nés d'une GPA à l'étranger, d'être adopté par le parent non biologique. Alors, ça ne se fait pas automatiquement l'acte de naissance. Enfin, en tout cas, il y a cette possibilité d'adopter et donc d'avoir le père biologique.
Alors, le père biologique est directement transcrit et ensuite,
le père non biologique.
Seconde étape. Donc, il y a bien, et parce que le droit à l'identité de l'enfant, le moteur, c'est l'intérêt de l'enfant. À partir du moment où les enfants existent, eh bien, ils font bouger les pratiques.
C'est étonnant que vous mettiez en avant l'intérêt de l'enfant la GPA et qu'on ne le mette pas en avant sur la PMA.
Mais je le mettais aussi.
Mais Dominique Quignot, ces enfants nés d'une GPA à l'étranger, ils existent.
Oui.
Donc, il faut bien leur donner un statut. Ils ne peuvent pas rester dans un domaine juridique.
Personne ne nie ça. D'ailleurs, dans l'avis du CCNE, il est question d'une délégation d'autorité parentale pour
ce qui n'est pas du tout une parenté.
Oui, mais
vous êtes d'accord avec ça. Ça n'a rien à voir, une délégation d'autorité parentale et la reconnaissance d'un titre de parent. C'est vraiment tout à fait différent.
En tout cas, l'idée, c'est qu'il faut effectivement donner à ces enfants un statut qui leur permet de vivre et ne pas faire comprendre ou croire qu'ils sont les fantômes de la République que l'on nous a présentés, parce que ce n'est pas vrai. Ils vont à l'école, ils sont soignés, etc. Mais est-ce que c'est une raison pour, est-ce que ce serait une raison, quand bien même leur reconnaissance ne serait pas totale de leur identité, comme vous le redoutez, d'autoriser des pratiques qui sont purement et simplement une sorte de enfin, le mot est trop, peut-être trop fort, mais d'esclavage.
Mais des pratiques qui sont légales dans un certain nombre de pays, en dehors de la
qui
France.
Qui sont légales dans certains pays, oui, mais alors est-ce qu'on n'a pas le droit d'une législation autonome au motif que d'autres le font ? Il n'y a pas tant de pays que ça qui l'autorisent. Ils l'autorisent sous forme de contrat très strict, mais il n'empêche que quand le contrat est tellement strict, comme en Grande-Bretagne, les parents qui veulent un enfant en GPA, ils vont quand même à l'étranger parce que c'est trop restrictif.
Oui, mais même en Grande-Bretagne, où effectivement c'est très restrictif, le législateur est en train de remettre sa copie sur le métier pour améliorer le système juridique. Donc finalement, ils sont en train de mettre sur pied une loi pour organiser de manière beaucoup
plus... C'est très libéral, c'est le contrat.
Oui, voilà. C'est pas forcément le contrat. Je pense pas qu'on puisse considérer que tout est dans la marchandisation en Angleterre. C'est un peu facile de diaboliser, je crois, aussi bien les États-Unis que l'Angleterre. Je pense qu'ils réfléchissent aussi à ce qu'ils font et qu'il y a très peu de cas qui se sont mal passés en Angleterre parce que les associations ont beaucoup participé à la mise en place et au développement des pratiques de gestation pour autrui. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que voilà, lorsqu'elles se sont bien encadrées, ça se passe bien.
Tiens, puisque vous parlez, pardonnez-moi, juste de diabolisation, je voudrais juste vous faire entendre un petit extrait d'un reportage qui a été diffusé, c'était l'an dernier dans le magazine Zone Interdite sur M6, sur le business des ovocytes. Ça se passe, c'est un reportage en Californie à Los Angeles. Vous allez me dire justement ce que vous pensez de la façon d'en parler, du ton notamment qui est employé. Est-ce que ça vous semble recouvrir une réalité de ce qu'est aujourd'hui la GPA, en particulier aux États-Unis, ou bien est-ce qu'on est dans une forme un petit peu de fantasme ?
Bienvenue à Los Angeles, la capitale mondiale du bébé business. Couple stérile, homo ou même célibataire, désormais tout le monde peut s'acheter un bébé. Avant, on pouvait s'offrir la graine du papa, le spermatozoïde. Maintenant, on peut aussi s'offrir l'œuf de la maman, l'ovule. Au cœur de cette drôle d'industrie, des centaines d'agences se battent pour proposer à prix d'or les plus belles jeunes filles et leurs ovules. Shelly Smith est une pionnière de ce nouveau marché. Dans son catalogue, que du haut de gamme. 300 jeunes filles les plus belles, les plus intelligentes du pays. Des références qui font fantasmer les futurs parents. Un ovule ici, c'est plus qu'une carte d'identité, c'est le patrimoine génétique de l'enfant. Et ces bébés de premier choix se négocient bien sûr au prix fort.
Entre 30 et 40 000 dollars américains. On a beaucoup de chance de tomber enceinte, mais quand même ça coûte beaucoup.
Avec extrait d'un reportage donc diffusé sur M6, on reconnaît bien le ton si particulier au documentaire de cette chaîne. Dominique Quignot, autoriser la GPA en France, ça reviendrait à arriver à ce genre de situation qui est décrite dans le reportage ?
Alors, je ne sais pas à quelle vitesse, mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, et je ne pense pas forcément aux États-Unis ni aux pays européens, mais dans beaucoup de pays, c'est vraiment c'est un trafic. C'est un juriste qui fait partie du CCNE qui disait que après la drogue, c'est le marché aujourd'hui le plus fructueux pour les mafias. Donc, et quand un pays se ferme parce que en Inde on commence à encadrer les choses pour ne pas pouvoir ouvrir la GPA à des pays étrangers, et ben ça se déporte vers un pays voisin. Et je pense qu'il faut quand même, c'est une chose qui entretient, qui vit de la pauvreté d'un certain nombre de femmes. Et même aux États-Unis, même s'il y a des femmes qui le font d'une manière généreuse, ça, c'est des choses que l'on entend, il y a aussi quelque chose qui peut faire un peu frémir certaines les femmes, je pense, c'est il y a des coachs pour que les mères porteuses ne s'attachent pas trop à l'enfant. Il y a des contrats qui sont terriblement très précis, qui permettent d'envisager toutes les situations, le handicap de l'enfant.
Ça, c'est le propre du contrat, hein.
Oui. Oui.
Justement, de prévoir toutes les possibilités.
Mais oui, et c'est une façon aussi que ne s'engage pas dans ces aventures, parce que c'est quand même des aventures très complexes. C'est une façon aussi qu'il y ait un coach qui peut nous sembler un peu brutal, qu'il y ait des contrats précis avec des pages de clauses. Je pense que c'est la seule façon pour que les gens s'engagent dans quelque chose en sachant que c'est une aventure très particulière. C'est un cas extrême d'aide à la procréation. Et heureusement, finalement, que les gens ont des barrières et des tas de freins au départ, puisque les agences américaines nous disent qu'il y a plein de candidates qui veulent veulent le faire. Donc, heureusement qu'il y a des freins psychologiques et des, comme ils disent, un screening pour que toutes les femmes ne s'engagent pas. Non, parce que je pense qu'il y a très peu de femmes qui peuvent le faire.
Mais justement, pardonnez-moi, juste Laurence Brunet, est-ce que de ce point de vue, l'arrêt de la Cour de cassation qui dit on ne va pas inscrire directement sur l'acte de naissance le parent non biologique, mais il va falloir passer par un processus d'adoption. Est-ce que ça vous paraît justement une barrière intéressante pour ne pas créer une forme d'appel d'air en faveur de la GPA?
Non, je pense que ça va pas être une barrière parce que ça va être, c'est juste une complication supplémentaire. Mais aujourd'hui, enfin, on va voir comment on les juge.
C'est un peu la définition d'une barrière. Non,
voilà, disons que c'est pas un obstacle insurmontable. On va dire que c'est un empêchement. Ça fait partie des tracasseries qui sont rajoutées. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Au final, et on va voir ce que les juges du fond vont faire. Est-ce qu'ils vont prononcer facilement ou pas l'adoption, adoption simple ou adoption plénière? C'est très compliqué selon ce qu'il y a écrit sur l'acte de naissance des enfants. Donc, il se trouve quand même que la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait refusé l'adoption par le second père de l'enfant. Donc ça, c'est clair, ça veut dire que les juges du fond, aujourd'hui, doivent consacrer la famille issue d'une GPA. Il n'y a pas d'autre solution. Et de toute manière, je crois que si on est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, cette cour qui nous a obligés à réfléchir sur le statut des enfants nés par GPA, on n'aurait pas échappé à une condamnation si l'enfant ne pouvait pas avoir deux parents.
Dominique Quignot, de toute manière, ça existe. Donc, est-ce que la vraie bonne chose à faire, ça n'est pas d'essayer d'encadrer au mieux justement cette pratique? On entend beaucoup parler de GPA éthique aujourd'hui, sans qu'on sache d'ailleurs toujours très bien quelle modalité ça recouvre, mais est-ce que la GPA éthique, ça peut être, et est-ce que ça va être d'ailleurs un sujet de réflexion pour le Comité national d'éthique?
Alors, dans cet avis dernier, il dit qu'il n'y a pas de GPA éthique. Donc, pour l'instant, la réflexion, elle est celle-ci.
Mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas de GPA éthique? Ça veut dire qu'en aucun cas, elle ne peut être éthique, la GPA? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les GPA qui se pratiquent ne sont pas
non,
des GPA
éthiques?
Non,
c'était plutôt la première version de votre réflexion. C'est-à-dire que même si on peut penser que c'est par générosité intrafamiliale, par exemple, que les choses se passent, qu'il n'y a pas du tout de compensation financière, etc., que la question de l'enfant né, de tout ce qui se passe pendant une grossesse entre la mère qui porte l'enfant et l'enfant, etc., ont des conséquences importantes, etc., cette question, elle demeure, quoi, voilà. Donc, dire qu'il faut, bon, puisque ça existe ailleurs et qu'il faut encadrer les choses, moi, ça me paraît être une certaine démission éthique, quoi. Je veux dire, c'est se satisfaire de situations qui ne sont pas...
C'était la même chose au moment de l'adoption internationale, quand il y avait des tas d'abus, on aurait pu dire, on l'interdit complètement aux personnes qui n'ont pas d'enfants d'aller chercher un enfant, les uns au Cambodge, les autres au Vietnam. Ce qu'on a fait, et on a mis 10 ans...
Ça n'a rien à voir. Ce sont des enfants qui sont nés.
Oui, non, mais il y avait des trafics. Non, sur la question du trafic. Donc, on peut essayer une pratique qui, au départ, dérive, parce qu'il y a des dérives. Je vous rejoins complètement. Moi, je suis aussi pour éviter absolument le marché. Mais il me semble que éviter le marché, c'est pas nécessairement tout interdire. C'est encadrer et essayer de responsabiliser les États qui, aujourd'hui, prennent pas leurs responsabilités par rapport à certaines femmes qui sont effectivement exploitées et pour qui c'est de l'esclavage. Et on peut raisonner à force, par analogie, avec ce qui s'est passé pour l'adoption. Il y avait un marché de l'adoption. On a mis 10 ans, 15 ans à faire une convention internationale. Bon, ben on l'a fait. Ça a été dur, difficile. On a cru qu'on n'y arriverait pas. On y est arrivé. Pourquoi, sur la GPA, on ne pourrait pas essayer de faire la même chose? Ça patine parce qu'il y a beaucoup de réticences et que la convention de la Haye qui travaille aujourd'hui sur ces sujets n'arrive pas à avancer. Mais bon, voilà, c'est un sujet peut-être encore plus ambitieux, c'est un sujet encore plus difficile, mais il me semble que c'est uniquement par cette voie-là, parce que si on interdit de toute façon une convention qui interdirait la GPA, les États-Unis ne la signeront pas. À quoi ça servira? La moitié du monde ne la signera pas. Donc moi, je suis exactement sur les mêmes positions que vous. Il faut éviter le marché. Alors pourquoi pas l'organiser chez nous?
Pour moi, c'est une démission.
Pourquoi ça serait une démission si nous l'organisons chez nous? Si on réfléchit à comment essayer d'encadrer et de proposer quelque chose?
Parce qu'il me semble qu'il y a toujours l'utilisation, disons, de quelqu'un, d'une tierce personne, qui, pour des raisons souvent liées au statut social ou aux moyens financiers, etc., sera amenée à accepter de louer son ventre pour une autre famille, etc. Mais donc pour moi c'est une exploitation.
Mais cette exploitation, je comprends que qu'on se pose la question, c'est la vraie question. Mais pourquoi on se l'est jamais posé, par exemple pour le don d'ovocytes, on s'est jamais demandé, est-ce que c'est quand même un traitement extrêmement lourd, la stimulation des ovocytes. C'est les femmes se soumettent à des traitements qui sont difficiles pour donner à d'autres. On n'a jamais posé la question de leur motivation, cette dichotomie de la maternité, elle n'a jamais été remise en question, elle n'a jamais été interrogée, elle est passée comme une lettre à la poste.
Quelle différence vous faites alors, justement, Dominique Quignot, pour conclure entre le don de vos
sperme? Elle mérite question, comme oui. Le don de sperme. Ce n'est pas la même chose de donner son sang que de donner des gamètes.
Je suis d'accord avec vous.
Et ça engendre... Voilà, alors, après, si on est maintenant dans les conséquences plus lointaines de ce qui a été autorisé il y a nombreuses années, et donc on est... englouti par le progrès.
Au lieu d'être englouti, on pourrait dire qu'on pourrait reprendre toutes ces pratiques et y réfléchir d'une autre manière à partir de est-ce qu'on peut faire des enfants avec l'aide de la science et d'autres personnes.
Bon, cela dit, il va y avoir les états généraux de la bioéthique l'an prochain avec énormément de débats. Je pense que ce sera l'occasion de rediscuter de toutes ces questions. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, Dominique Quignot et Laurence Brunet. On n'a pas évoqué la question de l'autoconservation ovocytaire, mais une petite fois, vous avez raison, c'était juste pour renvoyer
un sujet sur l'égalité des hommes et des femmes, quand même.
Pour renvoyer une précédente émission du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster, Isolde Sicard, Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson. Arnaud Laporte, la dispute, c'est bientôt. Je sais que vous aimez toujours ajouter des petites choses. Si vous voulez écrire l'émission. Si vous voulez écrire au Ramoud, par exemple, vous pouvez écrire sur l'onglet « Restez en contact » sur la page de l'émission. C'est comme ça qu'on envoie des mails.
Et demain, pour que je prépare le sujet ?
Rohingya, s'agit-il d'un conflit contagieux ?
Ah, d'accord, je vais préparer. Alors, en effet, ça le mérite. Merci Hervé Gardette. Dans 3 minutes, la dispute. Et tout de suite, les titres d'actualité avec Aurélie Kiefer.